19h sur France Inter. Le journal, bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Relancer la relation de la France avec l'Afrique. Pas si simple aujourd'hui à Montpellier. Échange parfois électrique entre Emmanuel Macron et les jeunes participants au sommet qui n'ont pas ménagé le chef de l'État, fustigeant ce qu'ils jugent être encore le paternalisme français. L'épidémie de Covid, bonne nouvelle. L'Institut Pasteur écarte tout risque de nouveau couvre-feu ou confinement prochainement. Ces dernières projections sont optimistes, prudentes aussi forcément. Dans l'actualité, encore un accord historique sur une imposition minimale des plus grosses entreprises à 15% pour les empêcher d'échapper à l'impôt. L'OCDE vient de l'annoncer. Le prix Nobel de la paix à deux journalistes qui risquent leur vie pour enquêter dans leur pays, la Russie et les Philippines. Et puis le retour sur scène de Joe Star, tout en poésie. Et au téléphone sonne, Claire.
Et ben on va parler, figurez-vous, des déserts médicaux. C'est un vrai sujet. La situation ne fait que s'aggraver. Alors que faut-il faire ? Quelles solutions ? Il y a des élus, des citoyens qui se mobilisent pour demander qu'on trouve enfin une solution. On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est un sommet inédit, un sommet France-Afrique sans dirigeants africains. Emmanuel Macron l'a voulu ainsi et a préféré faire face à Montpellier aujourd'hui à des centaines de jeunes entrepreneurs, artistes, chercheurs invités à s'exprimer sur l'état de la relation franco-africaine. Est-ce la bonne manière de renouveler les relations entre la France et le continent africain alors que Paris est en brouille avec l'Algérie et le Mali en ce moment notamment? Yannick Falt, vous êtes sur place à Montpellier et les échanges entre Emmanuel Macron et les jeunes participants ont parfois été électriques.
Oui, car les demandes de selfies se sont vite transformées en interpellations.
Je m'appelle Nakissi Savané, je suis comédienne et tête d'affiche du cinéma africain, activiste féministe. L'Afrique, c'est 70% de jeunesse. Moi, j'en peux plus de voir toute cette jeunesse qui accourt ici, qui meurt toujours dans la mer même n'en peut plus.
La jeunesse, ça tombe bien, c'est donc la priorité affichée par l'Élysée. 1000 jeunes invités sur les 3000 participants. À la tribune, des échanges parfois tendus, vous l'avez dit, des critiques récurrentes, paternalisme, arrogance, coopération avec les dictatures. Emmanuel Macron, lui, positive. L'Afrique et la France, pas une histoire parallèle, mais une histoire commune, comme une réponse à l'extrême droite.
Notre pays s'est construit dans ce rapport à l'Afrique. Et nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir une France qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité.
Une part d'africanité avec des pages sombres et heureuses pour le chef de l'État venu annoncer un fonds d'innovation pour la démocratie. 30 millions d'euros pour soutenir la société civile. L'une des propositions d'Achille Mbembe, l'intellectuel camerounais qui a préparé le sommet. Rendez-vous disruptif, vif, mais aussi festif.
Nous nous sommes même convertis. J'ai prié des dieux inédits.
Yannick Falt avec Sandrine Malon en direct de Montpellier. Ça y est, les derniers verrous ont sauté pour une imposition minimale des sociétés. L'OCDE annonce la conclusion d'un accord avec 136 pays. Un accord qui ouvre la voie à une véritable révolution fiscale pour le 21e siècle. C'est déjà félicité le ministre français Bruno Le Maire. Après l'Irlande, l'Estonie, la Hongrie s'est donc laissé convaincre sur un taux d'imposition de 15% pour empêcher les grandes entreprises d'échapper à l'impôt et lutter contre la concurrence fiscale entre les États. Reste tout de même un obstacle majeur, le Congrès américain qui doit approuver cet accord pour qu'il entre en vigueur, mais qui est très divisé sur le sujet. L'Europe ébranlée par la Pologne aujourd'hui. Le parti au pouvoir nationaliste veut le contrôle sur les juges et les procureurs. Ça inquiète les Européens depuis un moment. Et hier, la Cour constitutionnelle est allée un cran plus loin, remettant en cause l'un des fondements de l'Union européenne, la suprématie du droit européen sur le droit polonais. Ça revient à tuer l'Europe, s'indigne le secrétaire d'État français aux affaires européennes. La présidente de la Commission prévient, elle entend faire respecter le droit européen. Mais avec quelles armes ? Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. La seule semble être l'arme financière, ne pas verser les 23 milliards d'euros du plan de relance. Mais est-ce que c'est possible, Pierre ?
Bah disons que, en tout cas, la panoplie des sanctions financières européennes a déjà été utilisée depuis le retour au pouvoir du parti Droit et Justice. La dernière fois, il y a un mois, la Commission a demandé à la Cour européenne d'infliger des astreintes financières qui pourraient dépasser 1 million par jour tant que cette fameuse chambre disciplinaire des juges resterait en place. La Pologne attend aussi ses 23 milliards du plan de relance et la Commission attend toujours pour le valider, consciemment. Surtout, les versements du budget européen vont bientôt être conditionnés au respect de l'état de droit. Et la Pologne, on le rappelle, est le premier bénéficiaire des aides régionales européennes. Et les sanctions peuvent avoir leur effet, comme cet été quand 4 régions polonaises ont renoncé à leur opposition officielle à l'idéologie LGBT parce que certains fonds européens étaient menacés. Ces outils ont peut-être été sous-employés, mais désormais il y a un casus belli pour les Européens. La Pologne a déclaré la guerre à l'essence même de l'Union. Si elle se retire des règles communes, elle se retire aussi de l'UE, malgré les déclarations du Premier ministre Mateusz Morawiecki. D'ailleurs, il ne mentionne pas l'Union, il affirme que la place de la Pologne est, je cite, « dans la famille européenne des nations ». Il y a une vraie nuance.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Et la position de la Pologne fait écho à un discours aussi entendu dans la pré-campagne française. Certains candidats vantent en France aussi la primauté du droit national sur le droit européen. La candidate RN Marine Le Pen, qui apporte son soutien au pouvoir polonais d'ailleurs. Le candidat et ex-ministre socialiste Arnaud Montebourg aussi demande la supériorité de la loi française sur les décisions européennes. Et même Michel Barnier, l'ancien négociateur du Brexit et candidat à l'investiture de LR, défend la nécessité d'une souveraineté juridique à la stupéfaction de nombreux de ses anciens collègues de Bruxelles. C'est un autre sujet que ces associations aimeraient voir vivre dans le débat de la présidentielle, celui de la cause des plus jeunes, des enfants. Une soixantaine d'organisations s'est rassemblée dans le collectif Construire ensemble la politique de l'enfance pour interpeller les candidats, Faustine Calmel.
Ce qui interpelle d'abord, c'est un constat d'inégalité criante dès le plus jeune âge.
Un enfant qui naît aujourd'hui en France dans une famille très pauvre.
Céline Truong, d'AT Descartes Monde.
On sait déjà qu'il vivra 13 ans de moins qu'un enfant qui naît dans une autre famille plus favorisée. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et c'est un scandale.
D'autant que cette situation se dégrade. On compte aujourd'hui 3 millions d'enfants en situation de pauvreté en France, deux fois plus qu'il y a 15 ans. Pour enrayer ce mouvement, accentué encore par la crise sanitaire, le collectif réclame la création d'un grand ministère de l'enfance. Fabienne Quiriot est la directrice générale de la Convention des associations de protection de l'enfance.
Si on pense d'abord logement ou éducation, on compartimente. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'on porte une politique publique qui traduise une volonté forte et les voir, les percevoir comme des enfants avant de les voir comme des problèmes.
Sous-entendu, l'actuel secrétariat d'État mené par Adrien Taquet est insuffisant. Et puis dans les mois qui viennent, cette question doit devenir un thème de campagne, défend Françoise Dumont de la Ligue des droits de l'homme.
Au lieu de penser que la préoccupation première, ça doit être l'immigration, l'insécurité, les prénoms, que les candidats considèrent effectivement que la jeunesse, d'une manière générale, doit être une préoccupation première parce que les jeunes ont des choses à dire à la société et aux candidats.
Des candidats qui seront invités en janvier à présenter leur politique et leurs propositions pour l'enfance.
Et le collectif appelle à des marches en faveur de la cause des enfants. Demain à Paris, le rendez-vous est donné à 14h.
Ce sont des figures héroïques du journalisme qui viennent d'être récompensées.
Les mots sont de Reporters sans frontières. Après ce double Nobel de la paix attribué aux Russes, Dmitri Mouratov, rédacteur en chef historique du journal La Novaya Gazeta, l'un des rares médias d'investigation de Russie et dont plusieurs journalistes ont été tués. Anna Politkovskaya, la plus célèbre, il y a tout juste 15 ans. Et puis le Nobel de la paix revient aussi à une journaliste philippine, Maria Ressa, c'est son nom, qui enquête depuis des années sur des fausses informations et surtout sur le nombre de morts dus à la police aux Philippines, Nathalie Charbonnier.
C'est avec un large sourire que Maria Ressa a donné sa première réaction une fois la nouvelle connue. Elle l'a donnée au site d'information Rappeleur, site internet qu'elle a créé en 2012 et qui a pour mission de vérifier les faits, parce que pour elle, il n'y a rien de plus important. C'est avec ses triggers qu'elle a durant des années recensé par exemple le nombre de victimes aux Philippines attribuées à la police dans le cadre de la lutte contre la drogue, voulue par le président philippin. On parle de plus de 30 000 morts. Les faits, rien que les faits, c'est ainsi que le Nobel est pour elle une victoire de la vérité sur les fake news, les fausses nouvelles. Maria Ressa.
Le comité des Nobel a réalisé qu'un monde sans faits, cela veut dire un monde sans vérité et qu'on ne peut plus croire. Et le fait qu'une journaliste des Philippines et un journaliste russe gagnent le prix Nobel de la paix nous en dit beaucoup sur l'état du monde aujourd'hui et sur l'état des Philippines.
Et si aux Philippines, Maria Ressa a payé son engagement avec de la prison, elle dispose aussi d'une réelle aura à l'extérieur des frontières de son pays. L'avocate Amal Clooney, la femme de l'acteur l'acteur américain George Clooney était venu la soutenir lors de son procès en 2019. Un an plus tôt, elle s'était faite connaître du grand public grâce au magazine Time, qui l'avait retenue dans sa liste des personnalités de l'année.
Et le chef de l'ONU appelle à un effort mondial pour protéger la liberté de la presse. Pas sûr que Dmitri Mouratov goûte les félicitations du Kremlin, qui a salué aujourd'hui son courage et son talent. Le journaliste a préféré dédier son prix à tous les journalistes qui travaillent avec lui au sein de la rédaction et dit même que l'opposant russe, Alexei Navalny, est celui qui l'aurait mérité, ce prix Nobel de la paix. En Afghanistan, une attaque revendiquée par le groupe État islamique relance les craintes d'une résurgence terroriste dans le pays après le retrait américain. Terrible attaque aujourd'hui à Kunduz, c'est dans le nord-est du pays. Les fidèles d'une mosquée chiite ont été pris pour cible. Le bilan est difficile à établir, mais on parle de dizaines de morts et de centaines de victimes. Sonia Ghezali, depuis le Pakistan voisin.
Des corps déchiquetés, ensanglantés, jonchent le sol de la mosquée chiite du quartier de Khanamban Bandar de Kunduz. Des vidéos prises par des témoins ont été publiées sur les réseaux sociaux quelques minutes après l'explosion. Les images insoutenables montrent la puissance de la déflagration qui semble avoir eu lieu dans l'enceinte de l'édifice religieux. Cette attaque survient cinq jours après un autre attentat contre une mosquée à Kaboul lors d'une cérémonie funéraire et qui a causé la mort de cinq personnes au moins. L'attaque avait été revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique qui s'en prend régulièrement à la minorité chiite afghane et aux représentants de l'État depuis son implantation en 2015 en Afghanistan. Dans la capitale afghane, les talibans ont multiplié ces derniers jours les barrages de sécurité dans la ville afin de contrôler les véhicules qui circulent. Objectif, prévenir d'autres potentiels attentats du groupe État islamique qui a montré jusque-là avoir la capacité et les ressources pour mener des attaques meurtrières. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
La situation en Afghanistan qui était aussi au menu aujourd'hui d'une réunion des ministres européens de l'Intérieur à Luxembourg.
Une question à présent, comment l'épidémie de Covid va-t-elle évoluer cet hiver?
Les dernières projections de l'Institut Pasteur donnent une indication qui se résume en deux mots, optimisme prudent. Les explications de Véronique Julia.
Les modélisateurs leur connaissent, la dynamique est difficile à anticiper. On a malgré tout quelques repères. Le froid arrive et devrait faire augmenter le taux de transmission de 20 à 40%. Le taux de vaccination de la population est élevé et devrait limiter la propagation. Reste des incertitudes. L'efficacité vaccinale va-t-elle décliner? Un nouveau variant va-t-il émerger? Et surtout, va-t-on relâcher un peu, beaucoup, pas du tout les gestes barrières? À partir de là, les modélisateurs imaginent plusieurs scénarios. Dans le plus favorable, le taux de reproduction augmentera cet hiver. Il atteindra un pic au mois de janvier, mais sans reprise importante de l'épidémie grâce au vaccin. Dans le scénario intermédiaire, il y aurait une petite reprise, mais le pic d'hospitalisation resterait faible, entre 80 et 140 hospitalisations par jour. Dans le scénario le plus sombre, enfin, où on cumulerait relâchement des comportements et températures défavorables, on atteindrait un pic de 1200 hospitalisations par jour en février prochain. Pression sur l'hôpital, à un moment où la grippe saisonnière pourrait aussi engorger les services. Optimisme prudent, donc, et invitation à ne pas lâcher trop vite la discipline. En clair, beaucoup dépendra encore dans les semaines qui viennent de nos comportements.
Et le pass sanitaire reste en vigueur, au moins jusqu'au 15 novembre. Les élèves de primaire d'une vingtaine de départements supplémentaires pourront enlever le masque à partir de lundi. Vous avez la carte sur franceinter.fr. Moins de 1300 classes étaient fermées hier à cause d'un cas de Covid. Et voici la nouvelle idée du gouvernement pour inciter les chômeurs à se former dans les secteurs qui recrutent. Une prime de 1000 euros pour certains chômeurs de longue durée. Prime versée en deux fois, la moitié au début de la formation, l'autre à la fin, pour trouver les bras qui manquent à l'hôtellerie-restauration, le grand âge, le bâtiment. 300 000 emplois à pourvoir au total. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Alors est-ce que c'est une bonne idée?
Sur le papier, de prime abord, ça devrait marcher, nous dit Vincent Godbout de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, qui accompagne plus de 2 milliers de chômeurs de longue durée à l'année. Ça va marcher si l'on s'en tient pour lui à une visée à court terme.
Parce que les gens, quand ils arrivent en fin de droit, évidemment qu'il y a la pression. Bien sûr que quand ces personnes vont aller dans leur agence de Pôle emploi rencontrer leur conseiller, que le conseiller va leur dire « si vous faites une formation, vous allez toucher 1000 euros », évidemment, certaines personnes vont se sentir obligées malgré tout.
Des chômeurs bien obligés d'accepter avec 1000 euros à la clé, mais après, interroge les associations, le risque étant pour elles que ces demandeurs d'emploi empochent les 1000 euros, soient formés, mais n'aillent pas forcément sur la durée sur ces métiers en tension. Le gouvernement assure que le dispositif imaginé est adossé à une promesse d'embauche concertée entre l'employeur en manque de main-d'œuvre, le chômeur et Pôle emploi. L'incitation financière de 1000 euros devant permettre surtout aux demandeurs d'emploi d'être remboursés des frais qu'ils doivent souvent engager pour se rendre sur les lieux d'une formation ou d'un poste, parfois très éloigné de son domicile.
Merci Maxime Debs pour l'explication et une annonce juste avant le dépôt des recours aujourd'hui des syndicats contre la réforme de l'assurance chômage. L'audience déjà fixée à jeudi prochain. C'est une enquête du journal Libération qui semble avoir relancé un mouvement dans le monde du théâtre. Des milliers de témoignages sont postés depuis hier soir sur les réseaux sociaux sous le mot-clé MeToo Théâtre pour dénoncer des harcèlements, des violences sexuelles. L'une des femmes à l'origine de ce hashtag est comédienne et metteuse en scène. Elle souhaite garder l'anonymat. Elle décrit les mécanismes qui encouragent ces violences dans les coulisses de ce milieu.
C'est un cliché qui nous colle à la peau de l'actrice toujours disponible et dont le corps appartient au metteur en scène, qui amène ensuite au nom de l'art à des débordements et à des traumatismes qui conduisent de nombreuses actrices à arrêter le théâtre. Et c'est un cliché qu'on intègre dès le plus jeune âge à l'école du théâtre. On apprend qu'un bon comédien et une bonne comédienne doit toujours dire oui, oui à te déshabiller, oui à faire des scènes de sexe, oui à te mettre dans des positions dégradantes ou humiliantes. On nous dit beaucoup qu'on doit être désiré par le metteur en scène quand on est une jeune comédienne et qu'il y a un rapport de désir qui est essentiel. Et la précarité qui est aussi induite par le métier, la peur de perdre son emploi, va ensuite en effet conduire tout ce mécanisme de domination qui peut se mettre en place et qui peut avoir des effets extrêmement destructeurs et ravageurs, surtout quand on est très jeune et qu'on ne connaît pas encore ses limites et les limites de son corps quand on commence ce métier.
Un témoignage recueilli par Léa Gedge et un article à lire aussi sur franceinter.fr. Ce stupéfiant coup de filet en Seine-Maritime, 15 kilos d'héroïne, 375 000 euros saisis et 19 personnes en garde à vue dans une enquête sur un important trafic de drogue. Parmi elles, la maire de la commune de Canteleu, qui est aussi vice-présidente de la métropole de Rouen, soupçonné de complicité comme l'un de ses adjoints. Sur les routes, les voitures radars confiées à des entreprises privées et munies de flashs infrarouges non visibles vont être généralisées l'année prochaine sur tout le territoire. Allez, à présent, on vous emmène dans les coulisses. Avant-goût de la chronique de demain dans la matinale du week-end, les coulisses du retour sur scène de Joe Starr. C'est prévu à la scène musicale de Boulogne-Billancourt, un spectacle autour de la poésie qui s'appelle « Partage d'un songe ». Stéphane Capron a pu assister aux répétitions.
Je veux bâtir pour toi, madone, ma maîtresse, un hôtel souterrain.
Ce n'est pas la première fois que Joe Starr monte sur scène dans un registre différent de celui de NTM. Après Éloquence à l'Assemblée, un montage de grands discours politiques, puis Elephant Man, il se glisse dans la peau de grands poètes avec toujours le même plaisir d'être sur scène.
Je crois que j'arrive du live au départ, donc bien sûr que je prends goût à faire d'autres formes de live. Enfin voilà quoi, c'est ton moment de grâce au moment où tu as structuré tes affaires et puis tu vas les jouer quoi. Donc je crois que comment ils faisaient les artistes avant quand il n'y avait pas de moyen de s'enregistrer. Voilà. Donc c'est pas que moi, un artiste a envie de faire du live et puis voilà quoi. J'accuse les mauvaises manières de notre sang. Le sang est un vaudou puissant.
Dans ce spectacle, Joe Starr est accompagné par un jeune pianiste, Sofiane Pamar, un virtuose au look de rappeur.
Dans ma culture, c'est pas du tout la culture classique. Dans mon entourage ou dans la manière dont j'ai grandi, c'est pas du tout ça. Et donc, je cherche juste à ce que ma musique, elle ressemble à ce que j'ai vécu, aux gens que je connais vraiment, à ce qu'elle soit populaire, en fait, mais dans le bon sens.
Sofiane Pamar est un surdoué du piano. Quand il joue, il ne porte ni costume noir, ni chemise, mais une casquette, un pantalon baggy et des baskets. Le monde du rap se l'arrache et il a déjà composé deux albums personnels dans lesquels il fait entendre sa musique envoûtante.
Le partage d'un songe, dernier spectacle donc avec Joe Starr et le pianiste que vous entendez, Sofiane Pamar. C'est la semaine prochaine à la scène musicale de Boulogne-Billancourt et à retrouver demain dans la rubrique Coulisses à 6h50 dans la matinale du week-end.
Merci beaucoup Hélène Philly. Vous aimez l'été indien ?
Ah bon, bien sûr.
Ça tombe bien.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Un peu de grisaille demain matin.
Oui, effectivement, les conditions anticycloniques vont favoriser la formation de grisailles en fin de nuit, hein, sous forme de bancs de brouillard ou de brume, voire de nuages bas, en particulier vers la région centre, la Normandie, l'ouest parisien et le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi entre l'Auvergne et le Jura, sans oublier les vallées du sud-ouest. Mais ces phénomènes de basse couche devraient se dissiper assez rapidement pour laisser la place au soleil, et puis l'après-midi, le soleil va s'imposer quasiment partout. Seule la Corse conservera un ciel plus nuageux, quelques averses dans le sud de l'île, et puis côté température, les maximales l'après-midi seront douces et conformes aux moyennes de saison. Hein, prévoyez 17 à Lille et Lyon, 18 à Strasbourg et Grenoble, 19 à Paris et Brest. Comptez 21 à Toulouse, 22 à Bordeaux et Nice. On ira jusqu'à 23 degrés à Toulon. Et puis bonne nouvelle, hein, Claire, vous retrouverez les mêmes conditions météo dimanche avec un peu plus de nuages l'après-midi près des côtes de la Manche.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.